Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Céline Landreau pour tout entendre de l'actualité de ce 1er mai 2019. Bonjour Céline.
Bonjour Yves et bonjour à tous. Le pouvoir chancelle mais va-t-il basculer au Venezuela? De violents heurts ont eu lieu hier dans les rues de Caracas, au moins 69 personnes blessées. Et signe de la nervosité, ces images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit un blindé foncer sur des manifestants. Pas question pour autant pour les partisans de Juan Guaido de céder. Le président autoproclamé qui a d'ailleurs publié une vidéo cette nuit sur les réseaux sociaux pour appeler les manifestants à poursuivre aujourd'hui l'opération Liberté.
Aujourd'hui, 1er mai, il faut continuer à occuper la rue, continuer l'opération Liberté. C'est fondamental, nous pouvons changer de régime pacifiquement. Ce n'est pas vrai que le pouvoir, que Maduro a le soutien de l'armée. C'est peut-être un jour historique pour nous, Vénézuéliens. Avec cette rébellion pacifique, en occupant la rue de notre pays, nous pouvons conquérir notre futur par l'opération Liberté, l'occupation des rues.
Nicolas Maduro, lui, dénonce une escarmouche putschiste qui a échoué et promet des poursuites pénales contre les responsables du soulèvement de militaires qui se sont ralliés à Juan Guaido.
En France, la consigne des forces de l'ordre est claire. Hein. Tout faire pour éviter que ce 1er mai ne devienne la journée d'apocalypse promise par les casseurs.
Emmanuel Macron a donné le ton hier, réclamant une réponse extrêmement ferme en cas de violence des Black Blocs ce mercredi, alors que 1000 à 2000 casseurs sont attendus dans la capitale, des Black Blocs qui pourraient se mêler notamment aux Gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs ce que redoutent les autorités, Olivier Bois.
Oui, la jonction ultra-jaune, ultra-gauche va-t-elle se faire? C'est en tout cas le scénario qui est à la fois craint et tout à fait envisagé par les autorités. C'est cette alliance possible qui pourrait faire basculer la manifestation dans la violence. Les Black Blocs pourraient être entre 1000 et 2000. Ils ont besoin de monde autour d'eux pour pouvoir mettre en place leur stratégie de harcèlement des forces de l'ordre et leur stratégie de casse. Les ultra-jaunes, comme les appellent désormais les autorités, pourraient constituer ce renfort avec des manifestants qui se sont aguerris, qui se sont habitués aux violences depuis des semaines. Tout l'enjeu pour les forces de l'ordre sera de pouvoir intervenir avant que les groupes ne se constituent, de pouvoir procéder à des interpellations. Autre enjeu, pouvoir être mobile. Si les casseurs constatent que tout est verrouillé en tête de cortège, ils pourraient aussi tenter d'attaquer à d'autres endroits de Paris.
7400 policiers et gendarmes seront donc déployés dans la capitale lors de cette journée à haute tension. L'exécutif veut afficher sa fermeté, mais pour le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont, depuis le début du quinquennat, le gouvernement n'est pas à la hauteur face à la contestation.
Nous sommes en effet inquiets puisque les signaux qui ont été envoyés par le gouvernement est celui d'une faiblesse. Il a cédé à Notre-Dame-des-Landes aux zadistes malgré les décisions de justice, malgré un référendum local, aux casseurs suite au saccage des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, en lâchant 10 milliards d'euros le surlendemain de cette destruction de Paris. Le gouvernement laisse croire que c'est en manifestant dans la violence que l'on peut obtenir des avancées sociales et sociétales. Et nous estimons que le gouvernement doit maintenant assumer sa faiblesse et faire en sorte que Paris ne soit plus un champ de ruines comme c'est malheureusement le cas depuis plusieurs semaines.
Le député LR Pierre-Henri Dumont avec Dominique Tenza. Entre les casseurs et les gilets jaunes, les syndicats vont tenter de se faire entendre eux aussi leur voix. De nombreux cortèges défileront dès ce matin en région. À Paris, deux rassemblements sont prévus. Les syndicats dits réformistes se retrouvent ce matin devant le Théâtre de l'Europe. Une autre manifestation aura lieu cet après-midi, cette fois de Montparnasse à la Place d'Italie, à l'appel entre autres de la CGT et Force Ouvrière.
Et le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, sera avec nous à 7h45.
Et sachez que de nombreuses stations de métro et de RER restent fermées aujourd'hui dans la capitale en raison donc de ces différents cortèges annoncés. C'était l'un des leitmotifs des Gilets jaunes au début de leur mouvement, le prix trop élevé des carburants, des tarifs qui s'envolent encore. Le sans-plomb s'affiche actuellement à 1,58€ le litre en moyenne, c'est du jamais vu depuis 2013. Francis Duse, le président de l'Union française des industries pétrolières, craint un nouveau regain de colère.
Il y a 22 millions de Français qui ont absolument besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler et conduire les enfants à l'école. Ça pèse dans les budgets. Ça a été le démarrage du mouvement Gilets jaunes au mois d'octobre. Personne n'a intérêt à ce que les prix explosent à nouveau. Peut-être une légère augmentation dans les jours qui viennent, mais quand on atteint des prix très élevés comme ça, effectivement, les Français risquent de réagir.
Le président de l'Union française des industries pétrolières avec Florian Martin pour RTL. Plus de 700 salariés sont concernés par la vente des 21 magasins Auchan. Le groupe de grande distribution a annoncé hier qu'il allait céder une partie de ses sites jugés non rentables.
RTL Matin, il est 7h35.
Peut-être enfin une issue après 6 ans de bataille judiciaire sur le sort de Vincent Lambert.
Cet homme de 42 ans ans, est plongé dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Et hier, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête de ses parents qui s'opposent à l'arrêt des soins, pourtant prônés par les médecins et validés par le Conseil d'État. Les parents qui dénoncent une condamnation à mort de leur fils, mais qui, par la voix de leur avocat, maître Jérôme Triomphe, restent combatifs.
Ça ne change rien, puisque ce que nous attendons, c'est évidemment la décision du CIDPH, qui est l'instance internationale spécialisée dans la protection des droits des personnes handicapées, et c'est évidemment de celle-là que nous attendons une décision. Donc voilà, pour l'instant, j'allais dire que cela ne change rien à la situation de Vincent Lambert.
L'avocat des parents de Vincent Lambert, joint pour RTL par Jean-Alphonse Richard, analyse bien différente du neveu de Vincent Lambert, François, qui prône avec une partie de la famille la fin de l'acharnement thérapeutique.
On vous dit, ils ont saisi le Comité international des droits des personnes handicapées. Or, devant le Comité international des droits des personnes handicapées, on n'est pas obligé d'attendre. La France peut appliquer la décision si elle le veut. Et dès qu'on annonce un nouveau rebondissement ou peut-être un épilogue, etc., etc., moi je suis plutôt très fermé et très pragmatique. J'attends de voir ce qui se passe. C'est assez épuisant de croire en quelque chose, d'espérer parfois. Et surtout que c'est en plus une forme d'espoir en la mort de quelqu'un.
François Lambert avec Alice Moreno pour RTL. Une amende de 500 euros requise contre Pierre-Ambroise Boss après la violente bagarre qui avait opposé en août 2017 le champion du monde du 800 mètres et un ex-rugbyman sur le parking d'un casino de Gironde. 6 mois de prison avec sursis ont été requis contre son adversaire. Le jugement a été mis en délibéré au 28 mai.
Son personnage de Thérèse en avait fait l'une des actrices françaises les plus populaires. Anémone est décédée hier à l'âge de 68 ans.
Anne Bourguignon, de son vrai nom, s'est éteinte des suites d'une longue maladie. César de la meilleure actrice en 88 pour Le Grand Chemin, mais davantage connue pour ses rôles comiques avec la troupe du Splendide notamment. Et son personnage de Thérèse, vous l'avez dit, dans Le Père Noël est une ordure, film de 82. Un classique dont les répliques restent cultes près de 40 ans plus tard.
C'est bon, c'est fin, ça se mange sans fin. C'est quand elle goûte les chocolats du voisin d'en dessous qui essaie de leur refourguer ces chocolats qui sont vraiment pas bons.
Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Et elle fait semblant, mais d'une manière assez extraordinaire.
Je vais pas vous le dire ici.
Ah ben si, dites-le.
Ah si, à la radio. Allô Thérèse, je te prends, je te retourne.
Oui, je t'en Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse.
Ça nous intéresse pas, arrêtez ça.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
Ça dépend, ça dépasse. Quand ils sont en train de remplir un formulaire et il y a des cases et ils écrivent, ça dépend, ça dépasse. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Exercez-vous une activité professionnelle, ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse.
Souvenir amusé de cinéphile recueilli par Benjamin Bocriche pour RTL. La troupe du Splendide avec qui Anémone n'avait pas eu des relations apaisées lui a évidemment rendu hommage dès hier soir. Josiane Balasco notamment a salué une actrice à part.
Elle était parfaite dans Thérèse. Elle était géniale dans Thérèse. C'était une géniale actrice, Anémone. C'était une fille ravissante. Elle avait beaucoup de charme. Elle était piquante.
Elle semblait sans filtre.
Bien sûr, elle est parfaite. Ça nous faisait rire parce que c'était extrême. Mais le Splendide a perdu un de ses membres honoraires, en tout cas. C'est bizarre parce que Anémone, c'était des souvenirs à la fois joyeux et à la fois extrêmes.
Josiane Balasco avec Steven Bellery pour RTL.
Et nous reviendrons sur le parcours d'Anémone là.